démarrer. Donc je vous disais tout à l'heure, ceux qui se souviennent malheureusement ne peuvent pas venir. On avait initialement bâti notre présentation un peu en écho. J'ai essayé en fait d'assembler les deux. Donc je vais accaparer un peu la parole pendant un peu plus de 45 minutes. Donc je vous demande un peu d'indulgence par rapport à ça. Mais c'est encore tôt le matin, ça devrait aller. Donc je vais un peu mixer les deux approches, hein, une qui est très pragmatique et l'autre un peu plus théorique par rapport à cette dimension de l'usage sur les bibliothèques. Juste point de détail, est-ce que tout le monde a récupéré ses attestations? Enfin, de toute façon, elles sont présentes à ce moment. Mais excusez-moi, je n'ai pas présenté, excusez-moi, Julie, parce que je vais s'il te plaît. Donc, Julie Perrier, qui ne connaît pas, donc, qui est là pour répondre à toutes vos questions, à vos demandes, à vous orienter. Tu vas te lever, parce qu'ils ne vont pas du tout vous donner le temps. Julie, qui est doctorante en musicologie, elle est très intéressée par la thématique de la musique. Voilà, donc je vais en fait renverser l'ordre puisque Sophie devait intervenir en second, mais donc je vais prendre le cheminement inverse. On va partir peut-être d'une démonstration pratique pour enchaîner ensuite sur mon intervention. Donc l'intervention que devait faire Sophie portait sur grosso modo le dispositif que nous avons élaboré depuis maintenant plus de 2 ans et qui fonctionne de manière expérimentale bien sûr au sein de la bibliothèque. Donc elle a été utilisable dans l'espace physique même de la bibliothèque sur des bornes dédiées à cette utilisation, et bien sûr elle est également exploitable sur le web à travers les URL que certains peuvent trouver dans les différentes publications que nous avons rédigées sur cette thématique-là. Donc je vais démarrer par une présentation, présentation de l'artefact, un dispositif, sur ces 3 approches que nous avons tenté d'intégrer dans le mécanisme d'utilisation de la bibliothèque, qui sont la dimension d'interrogation, d'exploration et de localisation. C'est-à-dire, en fait, à la fois la démarche qui consiste à solliciter la dimension active de l'usager, de l'utilisateur. On verra que les deux notions sont mixées, utilisateur-usager, pas toujours très facile de faire la part des choses. Cette dimension d'interrogation, nous entendons souvent une dimension active de la part de l'usager qui a son vocabulaire, qui va utiliser un dispositif, donc il se fait un petit peu. Et la partie plus exploratoire, on est dans une situation où, grosso modo, les mots vous manquent, et pourtant, vous avez bien besoin de chercher quelque chose. Donc on a voulu intégrer cette dimension également d'exploration sans pour autant solliciter des mots. Puis la localisation, la bibliothèque est un espace physique, c'est un espace social, un espace culturel, un espace cognitif, et bien sûr un espace physique dans lequel effectivement les individus, les usagers ont des repères. Et en ce sens, je vous renvoie à une étude extrêmement intéressante qui a fait une chercheuse américaine qui s'appelle Ivona Lincoln, peut-être plusieurs, par rapport à l'évaluation de la système qui s'appelle l'IQUAL. Et justement, elles font, à l'occasion de cette publication qui a été diffusée dans la dernière conférence IQUA à Barcelone, sur le rapport entre justement les avantages et les inconvénients, ou ce que l'utilisateur prête à la bibliothèque physique et ce qu'il prête à la bibliothèque numérique. Donc, il y a vraiment des choses qui ne sont pas du tout antagonistes et qui se complètent véritablement. Donc en fait, cette idée du dispositif que nous avons élaboré avait pour vocation, donc ça traite de longue haleine bien sûr, hein, puisque ça fait plus de 2 ans qu'on nous y appelons, sur essayer de proposer cette approche aussi bien virtuelle que physique, et de physique virtualisée d'une certaine manière. Je vous propose une petite démonstration. Alors vous m'excusez un peu sur les nuances de manipulation, mais je n'ai pas le retour sur l'écran, donc voilà quoi que j'utilise la souris avec ma main et que je regarde dans l'écran, ce n'est pas très statique. Voilà, donc ce dispositif, donc le visuel catalogue que nous avons, développé, mis en place, conçu, donc, permet d'intégrer ces 3 approches que j'évoquais il y a un petit instant, qui est l'interrogation, l'exploration et la localisation, et qui sont en fait prostituées, se situent ici, d'une manière sur la barre inférieure du dispositif, qui permet en fait donc de chercher. L'exploration est sous-entendue par l'approche de la classification, en l'occurrence à l'université Paris 8, c'est la classification décimale universelle qui est utilisée, et puis donc la dimension de localisation qui est représentée par le terme math, hein, plein. Donc je vais juste faire une petite interrogation au niveau du premier dispositif, hein, donc, qui permet de chercher, ou sur des options que vous connaissez pour ce modo, et qui sont à peu près celles que Le Marec avait pu identifier en 1989 quand il a fait cette étude à la BPI sur GA et LISM. Donc on n'a pas cherché non plus à déployer des multitudes de champs d'interrogation. Donc on s'est limité sur titre, auteur et peut-être matière à mot. Donc je vais par exemple tenter l'expression bibliothèque et puis lancer cette interrogation. Oui, je souhaite continuer. Apparemment, enfin, si l'avion a bien fonctionné, si les problèmes informatiques qui arrivent toujours lorsqu'on fait les démonstrations. Normalement, c'est pas rajouté, pas évidemment. Avoir cette chance. Hein. En fait, c'est en attente, c'est en fait que j'ai aussi beaucoup attendu la clé de la salle. Enfin, peut-être qu'ici, il y aura plus de chance de faire attention de venir lors de propagation d'un bus. Celle-là, pour le coup, c'est on va y aller dans l'exploration. Donc, la classification, vous la connaissez pratiquement tous. Hein. Donc, l'idée, c'était de pallier aux insuffisances de termes que peuvent avoir les usagers. Hein. Aussi, pour les initiés, ce rapport en fait, d'organisation à téléphone et à bibliothèque. Mais je déploierai davantage cette présentation. Hein, sur la partie théorique que j'avais fait tout à l'heure. Donc, grosso modo, un système qui ne demande pas, en fait, de verbaliser, hein, simplement de connaître hein, l'organisation intellectuelle de la bibliothèque. Normalement, tout usager est invité, hein, à un moment donné de sa progression dans l'université, à la connaître, hein, et bien sûr, pas de manière experte, mais au moins de savoir qu'elle existe et qu'elle correspond à une tentative d'organisation de la connaissance. Hein, alors, des thématiques, des foyers, des subdivisions, des indices. On va par exemple aller dans celle qui relève de la généralité. Et lorsque donc, cette option est activée, vous avez grosso modo les trois entités qui sont constamment manipulées dans le dispositif, qui sont donc les indices de la subdivision, et puis les notices, les titres de manière extrêmement réduite, et puis les vedettes matières rameaux qui sont associées à chacune des notices bibliographiques. Donc, par exemple, vous avez sur cette liste qui est proposée à gauche donc, les différents indices, avec éventuellement, et ce n'est pas obligatoire, le libellé, hein, puisque c'est cette mise en libellé des indices qui relève directement de l'expertise des bibliothécaires. Parfois c'est fait, parfois ça n'est pas fait. Donc pour un certain nombre d'entre elles, vous pouvez voir sur le 00-5, ça n'y est pas. Le 00.12, ça n'y est pas. Mais pour les autres, eh bien, pour l'information disponible, elle est affichée. Donc vous avez entreproché le nombre d'ouvrages qui est associé à chacune des subdivisions des indices. On va par exemple aller en 0053. Voilà. Ici, sur les internets hypermédia, c'est une thématique que je chéris. Donc en la sollicitant à travers la petite puce qui est placée devant. Donc j'active. La partie droite, donc qui en fait va me signifier le nombre d'ouvrages, enfin me les donner plus clairement, le nombre d'ouvrages qui sont associés à la liste 00.53, donc Supertext Hypermédia, et ensuite hein, sur le second cadre, l'ensemble des vedettes matières rameaux qui ont été convoquées d'une certaine manière par les parties bibliothécaires hein, pour décrire. Bien sûr, chacun des ouvrages, mais du coup, on a en fait toutes les vedettes matières à mots qui caractérisent, on va dire, qui décrit, hein, on peut le dire sémantiquement, en fait, la subdivision consacrée à l'hypertexte hypermédia. Alors, ce dispositif est, dans chacun des cas, est activable. Donc, on peut très bien dire, voilà, quel est quels sont les belles matières, un mot qui caractérise le premier ouvrage, hein, ou le second par exemple, hein, ce type de difficulté, et il me filtre hein, en fait les belles matières qui sont associées. Alors j'ai la possibilité également en fait de me déplacer d'une certaine manière dans l'arborescence par des phénomènes de phénomènes hypertextes, en fait de circularité, hein, puisqu'il peut arriver que certains ouvrages soient représentés dans différentes divisions. Et c'est un peu l'intérêt, je dirais, de ces classifications, enfin l'intérêt que nous avons trouvé, Sophie Chauvin et moi-même, sur cette forme de représentation. L'idée, c'est pas seulement d'avoir un accès qui est hiérarchique, mais on s'aperçoit qu'il y a une forme de circularité extrêmement enrichissante dans cette manière de placer hein, des indices différents sur un même ouvrage. Je vais me rendre dans un des ouvrages qui... Voilà, par exemple, vous pouvez constater que l'ouvrage intermédiaire à Literary Studies donc, est associé à deux indices différents, hein, l'une qui est en 82.084 et l'autre qui est en 0.053 dans la subdivision où on se trouve. Donc je vais me rendre, donc en fait, je vais me rendre dans la subdivision 82.084, donc je me rends ici. Et donc je passe des généralités, hein, vous voyez, aux langues et littérature, et je m'aperçois donc que cet ouvrage, en fait, est en relation directe entre ce qui relève des hypertextes et des hypermédias et de la littérature et de l'informatique. Donc, et constamment, je peux revenir, hein, puisque chacun des ouvrages est identifié de cette manière-là. Donc, ce système d'exploration, donc je reviendrai tout à l'heure pourquoi l'avoir proposé, hein, va accompagner donc, le système de recherche qui ne fonctionnait pas tout à l'heure, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne finalement, puisque. Celui-ci fonctionne. Donc on va refaire une petite tentative d'interrogation. Voilà. Donc c'est grosso modo toujours les mêmes objets qui vont être manipulés, enfin comme objets, éléments descriptifs, textuels, qui vont être manipulés par le dispositif, toujours des notices, toujours des vedettes matières à mots, toujours des classifications, avec une information complémentaire qui est de la visualisation, de la synthèse graphique. Donc, je dirais que le travail de Sophie Chauvin a beaucoup porté sur cette dimension-là, comment tenter de synthétiser de manière constructive, de manière solliciter l'attention de l'usager, de l'utilisateur, pour quelque chose qui pourrait être source d'intérêt et d'attrait, pratiquement, pour l'usager. Donc, vous avez en fait un système qui est effectivement très chargé, hein, mais je reviendrai peut-être sur cette question de charge, de l'affichage. Donc, je dirais les trois entités que j'ai présentées tout à l'heure, mais qui sont disposées différemment, donc les titres, les vedettes matières et la classification, et qui sont interreliés. Donc, tous ces objets qui sont présentés à l'écran ont un rapport les uns avec les autres. Et en l'occurrence, l'étoile, enfin, le graphique étoilé que vous voyez au milieu, est directement en relation avec la colonne destinée à la classification décimale universelle. Et comme les ouvrages sont tous à Paris 8, lorsqu'ils sont en libre accès, bien sûr, dans des salles thématiques, identifiées par des couleurs, eh bien, en fait, la dimension du plan, le plan extrêmement schématisé qui est représenté en haut à droite, est reliée ici au niveau des titres par à la fois l'indicateur de salle et la couleur associée. Vous avez à la fois constamment un rapport entre ce qui relève en fait de l'intellectuel, de l'organisation, du conceptuel et du physique, puisque la bibliothèque demeure, en l'occurrence ici, un espace physique que l'usager utilise. Ces systèmes sont interactifs, c'est-à-dire qu'on peut demander à tout moment eh bien, quel est précisément l'indice et le libellé associé à un ouvrage, quels sont les ouvrages associés à un indice. Enfin, voilà, je voudrais savoir précisément quels sont les ouvrages qui sont associés exclusivement à l'indice 0.053. Donc je ne vais avoir ici listé que ces ouvrages-là. Je ne vais avoir que les ouvrages qui relèvent d'analyse de données ou de classification automatique, par exemple. Donc dans la liste initiale hein, de 30 documents, eh bien, on ne va retenir que cela. Donc une capacité, si vous voulez, grosso modo, pour l'usager, de passer d'un environnement très large, l'indice, le thème, la classe, à quelque chose d'extrêmement fin, jusqu'à une descriptive sémantique qui relève en fait de la matière à mots. Donc ça, c'est la partie d'interrogation, hein, qui pourrait se faire, donc, comme je le disais tout à l'heure, sur différents éléments. Enfin, ce qui m'intéresse d'abord, c'est d'explorer constamment tout ce qui relève de la classification automatique dans l'intégralité de la base bibliographique, 360 000 ouvrages. Donc on lance ça avec Rocketly. Je régénère le lancement. Et en fait, j'ai une recherche qui s'opère sur la classification automatique et qui m'a ramené exclusivement 6 titres. Et cette partie, donc, je dirais, d'interrogation et d'exploration, nous sommes en train de l'associer à un système qui n'est pas encore terminé, enfin, disons, qui est pratiquement fini, mais qui n'est pas finalisé en termes graphiques, qui relève, en fait, de la localisation. Donc, nous avons, en fait, proposé aux usagers, enfin, d'avoir une transposition de leur espace physique dans lequel ils évoluent habituellement par ce plan. Donc on aura la possibilité de se déplacer dans les salles thématiques. Vous voyez que pour chacune des salles, au-delà de la caractéristique de couleur, il est associé les thématiques qui sont présentes dans ces différentes salles de couleur. Donc en l'occurrence, nous travaillons de manière expérimentale sur la salle brune. Donc en fait, lorsque on actionnera la salle en question, eh bien, je vous rendrai en fait sur la salle en question et les rayonnages, on peut les distinguer ici. Rayonnage permettra en fait d'avoir la liste des ouvrages associés à un rayonnage, avec toujours pareil pour chacun des ouvrages, au travers de sa notice, les diverses matières rameaux qui sont caractérisées. Donc c'est en train d'être finalisé, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc cette partie démonstrative place un peu le cadre. Hein. Alors, il ne s'agit pas, la vocation, c'est pas de faire un système informatique. Souvent, nous avons eu le retour comme quoi on essayait de recomposer un SIGB, ce n'est absolument pas notre vocation. Je ne suis pas dans l'informatique, sauf que je n'ai pas dans l'informatique. Nous sommes mis en sens de l'information et de la communication. Ce qui nous intéresse, c'est le rapport établi entre l'information, les technologies et bien sûr les gens qui vont les utiliser, soit dans un cadre personnel, professionnel, social, culturel, communautaire, peu importe. Donc en fait, c'est bien. Et ce dispositif n'a que pour vocation en fait, d'illustrer la démarche que l'on suit actuellement. Donc c'est maintenant la teneur de la présentation que je voudrais vous faire. Pourquoi avoir tenté de réaliser ce dispositif? Alors, juste petite remarque technique, c'est que il est toujours possible en fait de suivre. Les interrogations, c'est-à-dire qu'on peut voir. Vous avez ici une espèce de synthèse, hein, c'est à notre intention, hein, je veux dire. Ça veut en fait quelles interrogations ont été portées sur le dispositif, mois par mois, en fonction des sollicitations sur les champs de saisie, titres, auteurs, etc. Donc on peut très bien se rendre ici, voilà, sur le mois de mai. Et on voit par exemple les saisies que j'ai pu faire, les saisies bibliothèques, hypertextes. Et puis, ce qui est en rouge correspond aux activations qui ont été portées en fonction de la puce que j'ai activée. Est-ce que j'étais au niveau de la colonne, de la liste titre pour activer un lien? Est-ce que j'étais dans la colonne rameau quand j'ai activé un lien? Donc, cette chose-là, en fait, nous permet également de suivre un peu les sollicitations. Alors, de manière extrêmement étonnante, on a pu observer, alors que vous voyez que les informations, grosso modo, présentées sont sommaires, hein, il n'y a pas le contenu, il n'y a pas la notice complète, et grosso modo, on s'est aperçu qu'il y avait des consultations qui pouvaient durer plus d'une heure, parfois même jusqu'à 4 heures. Une consultation de métadonnées, de toute façon, en plus, à distance, hein, pas essentiellement sur place, mais de l'extérieur de l'université, hein, des gens passaient plusieurs heures à interroger le capitaine par ce dispositif-là. Voilà, je m'arrête là sur la dimension instrumentale et je reprends le fil sur peut-être la portée un peu plus conceptuelle de ce dispositif. Voilà, donc. L'objet de ma présentation, donc, c'est cette question de la capacité en fait, d'appréhender cet objet relativement complexe. Alors, relativement, pourquoi relativement? Parce que, bien sûr, pour les bibliothécaires, pour les professionnels de l'information de la bibliothèque, ça ne pose peut-être pas nécessairement de difficultés, mais ben, vous savez tous que pour un usager, que ce soit bien sûr pour le néophyte, pour le néo-arrivant, pour le premier cycle, en première année, mais jusqu'au doctorant, hein, parfois même, on ne va peut-être pas dire jusqu'à l'enseignant chercheur, ça reste un espace qui est extrêmement complexe et pour lequel en fait, les règles de fonctionnement ne sont pas toujours extrêmement visibles. Malgré les efforts, et je souligne, des professionnels qui. Donc, cette question de la capacité à appréhender ce dispositif, pour bien sûr des questions d'usage, évidemment il ne s'agit pas de l'appréhender pour l'appréhender en tant qu'objet technique, hein, de connaître la classification, de connaître la matière à mots, de connaître le nombre d'ouvrages qu'il y a dans l'immobilier, hein, ça n'a pas tellement d'intérêt. Véritablement, c'est pour que cet usage accompagne la raison d'être de la bibliothèque au sein de l'université. Alors, avant de démarrer, j'aimerais quand même rendre à César ce qui appartient à César, puisque ce travail, bien sûr, par un moment donné, d'une intuition ou d'une impression, et puis c'était à l'occasion du colloque ISCO qui s'est déroulé à Grenoble en 2003, qu'en écoutant parler Richard Roy, qui est conservateur donc, en chef de la bibliothèque municipale à vocation régionale de Reims, en l'écoutant parler, lors de son intervention qui portait donc sur l'approche conviviale de l'accès à distance aux collections des bibliothèques publiques, que je me disais, mais c'est étonnant ce qu'il raconte là, et c'est même bizarre que ça n'ait pas déjà été fait. Alors quand je dis fait, c'est pas l'idée de réaliser un dispositif technique, mais c'est avec toute cette activité, ce contexte lié à l'accessibilité, à ce que proposent les technologies en l'occurrence, comment se fait-il que cet homme pourrait proposer enfin, des choses qui n'avaient pas encore été réalisées. Ça m'avait beaucoup surpris. Et comme un de mes grands mes travaux de recherche ont beaucoup porté depuis ma thèse sur l'hypertexte et sur le rapport à l'accessibilité, hein, et sur la sur les possibilités de l'accessibilité que propose l'hypertexte en l'occurrence par rapport aux techniques habituelles de base de données de système expert. Donc j'ai trouvé son intervention extrêmement à la fois étonnante et surprenante. Et donc avec cette idée que d'ores et déjà la bibliothèque est un espace à la fois très organisé, mais tellement étranger aux gens pour qui il est conçu. Et de sorte que ben, souvent, ils ne trouvent pas d'ouvrage. Et je me souviens d'une phrase que Richard Roy disait, qui, ben, on est aussi là pour proposer des ouvrages pour des gens qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Et j'ai trouvé ça plutôt étonnant. Et donc, il a rajouté cette chose au niveau des dispositifs techniques qu'il a eu l'occasion de tester, hein, de mettre en place dans les bibliothèques. Et bon, je vous laisse la lire. Et surtout, ce rapport en fait à la conception réductrice de certains dispositifs. Et c'est vrai hein, que certains catalogues, bien sûr pas les nouveaux portails extrêmement élaborés, mais certains catalogues sont plutôt austères hein, pour les usagers. Donc, et alors qu'il semblerait qu'il y ait tout, il y ait l'expertise des professionnels, il y ait ces dispositifs techniques qui sont extrêmement puissants, ces logiciels, ces matériels, et puis néanmoins, il ne semble pas que ce système soit très très performant. À l'occurrence, hein, et là, il faut regarder sur le catalogue de la bibliothèque de Paris 8 hein, et solliciter l'aide en ligne, par exemple, hein, sur un site, c'est assez amusant parce que. Donc, le logiciel est d'origine espagnole. Il y a une espèce de traduction française, espagnole française, qui est assez amusante en fait. Alors, la question de l'usage, elle est importante, puisqu'on parle constamment des usagers, de leur usage. Évidemment, dans la revue du BDF, il y a beaucoup de numéros qui ont été consacrés à l'usage. Hein, des dossiers complets, et puis constamment des articles, une thématique qui est récurrente, évidemment. Et puis, en fait, Yves-François Le Poëdic, dans cet ouvrage qu'il a publié sur justement la question des usagers et des usages, insiste sur en fait, le rapport assez individuel, assez personnel de cette question de l'usage. Donc, il relève, ça m'a fait penser à la manière de faire en chaîne, puisqu'on en avait parlé un peu avec le design, sur la manière de faire. Donc, ça reste quelque chose de très personnel. La manière dont, grosso modo, l'individu, le sujet, l'acteur, l'usager, l'étudiant, l'enseignant, le lecteur, va intégrer, va s'approprier son environnement et les outils qui sont mis à sa disposition. Encore possible qu'il les reconnaisse. Encore possible qu'une fois qu'il les a reconnus, qu'il sache s'en servir. et qu'une fois qu'il faut s'en servir, qu'il les associe bien aux situations intellectuelles ou cognitives dans lesquelles ils se trouvent. Puisque je vous rappelle qu'à l'université, on a à la fois des gens qui sont affiliés, qui savent pourquoi ils sont là, des étudiants en master, en doctorat, puis il y a les tout débutants qui ne savent pas très bien, qui ne font pas clair comment ça marche. Et je vous renvoie là justement au travail d'Alain Coulon sur le métier d'étudiant, sur l'affiliation intellectuelle, qui fait également, qui donne la raison d'être aussi aux formations, à la méthodologie documentaire. Donc, cette question d'usage est toujours présente, et puis, grosso modo, c'est juste qu'on a du mal à dessiner précisément. Alors, il semblerait que cette question de l'usage et des usagers soit très présente, c'est-à-dire dans l'activité très personnelle, puisque déjà Martine Poulain, dans la préface, est consacrée à l'ouvrage de Joël Marek sur Dialogue au labyrinthe, par rapport justement à l'utilisation de l'informatique que faisaient les lecteurs de la DPI, à nouveau, en fait, signaler que, grosso modo, il y a un rapport très personnel à l'instinct, à l'habitude, à la manière de faire, à ce que les gens ont pu comprendre en leur corps intérieur, donc qui reste, grosso modo, très secret, qui leur appartient. Donc, on sait dans la bibliothèque qu'il y a des étudiants qui ne vont jamais demander aux bibliothécaires, qui vont pratiquement pas utiliser le système informatique, et qui se baladent dans les rayonnages. Alors, en ayant bien sûr la conviction que c'est la bonne manière de faire et qu'ils s'y sentent bien. Donc, c'est ce rapport très personnel que vous avez dit. Je ne suis pas là pour dresser, exprimer en fait des regrets sur la manière d'être, c'est-à-dire que chaque individu utilise ses propres moyens, donc ensuite, c'est comment peut-être arriver à l'amener à, éventuellement, s'il souhaite changer de position ou de posture sur des possibilités qui sont proposées. Vous pouvez le voir, c'est pas moi qui l'écris, c'était dans le rapport d'activité de la littérature de l'UNICAP, donc une sous-utilisation frappante des bases de données depuis le monde de périodiques. Alors, rien que pour le visuel catalogue, alors qu'il est installé sur 4 postes pendant l'année dernière, on avait 60 000 connexions. En ce moment, on a déjà écrasé les 120 000 euros dispensés pour la données. Donc, véritablement, il y a un souci. Alors, on ne peut pas dire que c'est un souci. Qui est associé à une personne, à une structure, à un groupe, etc., c'est largement partagé. Et certainement, le souci vient de l'environnement, du contexte, des étudiants, des usagers, bref, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Néanmoins, semblerait qu'avec le paradigme de la société de l'information, c'est le récent rapport de l'UNESCO, publié l'année dernière au mois de décembre, on s'oriente délibérément vers les sociétés des savoirs, où, en l'occurrence, dans ce ouvrage assez conséquent, il y a une partie consacrée aux bibliothèques, je vous invite à le lire. Donc, on est véritablement dans un rapport à la connaissance, au savoir, et on retombe sur cette question du développement personnel. Et donc, comme le soulignait Philippe Breton, c'est que tout ça ne peut pas s'accompagner sans qu'il y ait d'envie. Le désir de connaître, le désir d'apprendre, le désir de savoir. Et justement, il apparaîtrait que des tas de dispositifs aujourd'hui, donc le web n'est pas étranger à tout ça, et bien soit aussi des mécanismes qui permettent en fait d'apprendre pratiquement sans s'en rendre compte. On peut consulter des tas de choses à longueur de journée, on peut suivre des émissions, télévision, en ligne. Donc il y a évidemment, il semblerait qu'il y ait quelque chose lié à la nécessité de trouver chez les individus une détermination, une volonté d'apprendre et de connaître. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est dans la littérature depuis plus de 25 ans. Donc il y a des tas d'ouvrages, j'aurais pu faire une liste très conséquente sur la question, des tas d'ouvrages qui traitent de l'hypertexte, donc je vous renvoie bien sûr au fondateur de René Larbouche, sur la sociabilité, sur Memex, donc les travaux de Douglas Engelbart sur son projet Augment, sur Online System, qui était véritablement une volonté, une vocation d'étendre le potentiel de l'individu, de dire voilà, en fait, on va créer des orteils, des artefacts qui vont lui permettre de se déployer, en fait, d'être peut-être à la hauteur de ce qu'il sera un jour, et de l'accompagner dans ce travail de cette acquisition de connaissances et d'enrichissement. Donc, un certain nombre d'ouvrages, j'ai listé en quelque sorte, qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres, et qui sont dans cette même. Dans cette même veine de la connaissance, l'accès, la facilité d'accès, le déploiement de l'individu, etc. Mais je dirais que, de manière très pratique, c'est ce qu'on constate dans les bibliothèques. La bibliothèque de Paris 8, ce bel édifice donc qui est ouvert en 98, mais exactement rendre la connaissance accessible au travers des salles de lecture, au travers de la multitude de postes, enfin, de places assises, à travers de l'ensemble des dispositifs techniques et logiciels qu'elle offre aux usagers. Et c'est vrai que la moitié du fonds documentaire aujourd'hui est en libre accès. Un étudiant rend la bibliothèque avec sa carte et puis ensuite il va dans sa salle, il va dans les salles, il va dans les secteurs thématiques, il va dans les salles de périodiques, il va dans l'espace audiovisuel. Donc il y a une possibilité très large en fait d'accès à la connaissance. Et je dirais que grosso modo, ça réalise un peu ces regards un peu utopiques, un peu forcément imaginaires qu'ont eu des gens comme Daniel Arnouch ou comme Michel, auteur de tel message. Donc, et cette capacité à l'accessibilité, donc, c'est aussi beaucoup relayé par ses travaux sur l'hypertexte. Donc, je citerai Jean-Jean Clément, qui est enseignant ici au département intermédiaire de l'université, et qui a beaucoup travaillé sur cette question de l'hypertexte. Donc, des textes fondateurs, comme ceux de Benz et Darman, qui soulignent toujours, en étant des 88, l'importance de l'hypertexte. Alors, pas seulement comme système technique, c'est ce que Jean-Clément souligne, un système aussi intellectuel, concept, dans cette voie vers laquelle on peut tenter de déployer les connaissances humaines. C'est un peu utopique, bien sûr, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai que ces possibilités donc, de l'hypertexte, de la flexibilité, des environnements documentaires toujours plus enrichissants, toujours plus riches, le web bien sûr est présent, ces superpositions de dimensions organisationnelles, eh bien, tendent à créer un univers qui est extrêmement complexe, au sens au premier du terme, qui contient, parce que de plus en plus c'est emboîté, c'est riche, et il faut des systèmes, il faut des moyens, des mécaniques, des méthodologies, quelque chose qui va aider à voir, peut-être clairement, à discerner cette richesse et à pouvoir orienter peut-être les parcours dans la connaissance. Donc c'est ce que cette phrase, je trouve extrêmement important de dire moi, sur la complexité et sur ce qu'il faudrait faire pour que cette complexité soit accessible. Alors, dans l'univers de la bibliothèque, Il y a depuis très très longtemps, il y a eu cette volonté, cette vocation de vouloir organiser la complexité. C'est vrai que, je ne suis pas certainement un des convaincus, mais les classifications, quelles qu'elles soient, soit les niveaux de la CDU, soit de l'évêque du Congrès, les tentatives de classification interfaite, tout ça en fait sont des tentatives de... Donc ce sont des tentatives en fait d'organiser, peut-être pas de manière la plus idéale, mais c'est une tentative, on doit la saluer en tant que telle, pour rendre cette complexité un peu moins imposante, un peu moins dissuasive. Alors, d'aucuns sont disant que c'est une tentative de la vie, tout ça c'est bien beau, mais ça ne fonctionne pas. Donc Georges Parec, qui était lui-même documentaliste, qui a travaillé au CNRS, lui-même, l'esprit humain, ça ne marche pas comme ça. Et d'une certaine manière, il dit ce que Van der Waal disait dans sa série Mating, nous sommes des êtres d'associativité, on n'est pas que hiérarchique avec des choses comme ça. D'une certaine manière, c'est très juste, on ne peut pas nier, mais la question du classement, de l'organisation, en fait, n'est pas opposée nécessairement à l'associativité. C'est la démonstration que vous avez montrée tout à l'heure, partie de cette chose-là. Il s'agit donc en fait de familiariser l'utilisateur, l'usager à cette organisation sans pour autant qu'il en devienne expert. En fait, il faut qu'il le ressente, et pour qu'il le ressente, il faut qu'il en ait le désir. En fait, que cette organisation n'est là que pour l'aider dans son propre parcours de cheminement dans la connaissance, ce qui va lui permettre peut-être de se déployer, de se développer en tant qu'individu. Puisque, quoi qu'on en dise, la question de penser, la question de classer, la question de catégorie semble être quelque chose qui soit caractéristique de l'ordre qu'on peut avoir dans sa tête et des moyens que l'on peut avoir pour ensuite grandir, augmenter son potentiel. Ça semble passer par là, même si ensuite on peut en faire des usages différents Donc c'est trouver certainement un équilibre entre ces tentatives d'organisation qui ne sont pas peut-être liées à des aspirations individuelles. Hein, c'est vrai que à comprendre l'organisation, je vous renvoie au parcours d'arborescence d'un disque dur par exemple, c'est toujours très pénible, on n'a pas envie de faire ça comme ça, mais c'est comme ça. Mais quand on en comprend le sens, quand on comprend l'organisation, eh bien on peut très bien l'utiliser de façon du reste que ça puisse vous aider dans les différentes tâches cognitives que vous vous donnez, et que vous vous donnez par plaisir, parce que vous voulez grandir, parce que vous voulez apprendre davantage de choses, parce que vous êtes émerveillé, parce que vous regardez autour de vous. Et il est vrai que dans l'univers informatique, largement relayé par l'Internet et le web actuellement, eh bien on retrouve ces choses-là. On retrouve à la fois ces choses extrêmement structurées, organisées, avec cette vocation de l'accessibilité, qui serait plus proche de ce que Vannevar Bush et Douglas Engelbart pensaient de montrer avec leur dispositif, qui est permettre l'accessibilité, permettre le libre parcours. Donc à la fois des systèmes qui vont être très rigoureux dans l'organisation des données, mais en fait permettre ensuite une liberté d'utilisation, une liberté de navigation, une liberté de parcours au sein des univers documentaires, de connaissances structurelles qu'ils proposent à l'utilisation. Donc j'en ai listé quelques-uns. J'ai volontairement pas mis Google à l'intérieur, puisqu'il n'y a pas de catégorisation au sein de Google, mais bien sûr qu'il y a des tas de dispositifs qui utilisent les résultats de Google pour ensuite catégoriser. Donc j'en ai mis quelques-uns, mais il y en a plusieurs bien sûr aujourd'hui de ces systèmes, en fait qui, à partir d'un amas documentaire, on va dire, qui est le web, et, en fait, va tenter d'introduire de l'organisation. Donc sur eBody, j'ai tapé Digital Library, et puis donc sur la partie gauche, eh bien, le système a tenté d'organiser sous forme de thèmes, on va dire, de classes, l'ensemble des résultats, donc les 55 millions de sites de pages qui ont été trouvés, il a tenté de les organiser sous forme d'agrégats, en fait, de clusters. Donc il ne s'agit pas de dire, c'est pas juste, mais c'est pour montrer que dans cette question, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, le classement, l'organisation, ça participe assurément de cette tentative de parcourir la complexité. Oui. Un autre, Exalib, dont on parle beaucoup actuellement, utilise lui l'Open Directory pour tenter en fait de réajuster sur donc la requête, en fait de redistribuer les différents sites dans différents pays. Bien sûr, qui est très populaire, Cartoon, qui fait à peu près la même chose. Donc en plus, qui cartographie, qui tente en fait de positionner les documents les plus pertinents, donc au niveau de la taille des feuilles, de la distance les unes par rapport aux autres, qui est censé interpeller. Alors on a une espèce de système de connaissances complexes pour tenter de relier des choses extrêmement complexes. On n'est pas loin de ce que signifie Albert Morin dans sa citation de tout à l'heure. Avec sur la partie gauche, toujours également, une vocation à restreindre, à catégoriser, à classer, éventuellement à regrouper au moins les différents résultats de requêtes qui ont été ramenés par le dispositif. Donc ça c'est des systèmes commerciaux. Personnellement j'ai travaillé avec une équipe ici à Paris 8, dirigée par un MU, sur des systèmes comme celui-là, qui avait pour vocation d'extraire automatiquement dans un ensemble de pages web des thématiques. Donc en fait vous aviez par exemple là dans ce système, je crois qu'il y a 9000 documents. Donc ces 9000 documents étaient regroupés autour de points. Et les mots qui sont associés sont censés être signifiés. La vocation du regroupement, et plus le cercle est gros, grand, et bien plus il y a des documents à l'intérieur, et les distances sont aussi pertinentes, c'est-à-dire que le congrès entretient des relations avec metteur en scène, en revanche, par rapport à Fouille, c'est très très éloigné. Donc ça, c'est des dispositifs techniques, donc les premiers que je vous ai montrés sont commerciaux, industriels, ça c'était des systèmes plus scientifiques, plus de recherche. Alors, revenons donc à nos usagers qui pourraient utiliser tout ça, mais qui malgré tout, aujourd'hui, ils ont ça à leur disposition. C'est-à-dire que quand vous allez dans la bibliothèque, bien sûr, il y a des postes informatiques dédiés aux différents dispositifs proposés par la bibliothèque, c'est des documentaires, mais ils ont également accès au catalogue, ils ont également accès aux bases de données, ils ont également au web. Ils sont effectivement câblés eux-mêmes, ils peuvent utiliser Internet. Donc ils ont inclus ce système, et grosso modo, on se rend bien compte qu'ils n'utilisent pas toujours à bon escient, ils ne savent pas toujours très bien comment les utiliser, puisque grosso modo également, il faut bien le dire, tous ces systèmes techniques demandent à l'apprentissage, demandent une connaissance. C'est pas, on ne peut pas passer de l'e-boogie à Google, et ensuite à Carrefour, en disant que ouais, c'est la même chose, et puis je comprends instantanément. Hein, du reste, il y a une étude qui a été faite par des psychologues cognitivistes, Daniel Martin et Alexandra Kacha, qui montrent grosso modo les systèmes cartographiques du web, comme Cartoon par exemple, sont peu d'intérêt, en fait, pour comprendre le système de liste textuelle. Ce sera peut-être plus vrai dans 10 ans, mais actuellement, il semblerait que les usagers restent, enfin, les utilisateurs restent assez démunis et vers leurs petites enceintes pour utiliser ces systèmes. Et pourtant, je dirais que dans les spatiales des détails que nous connaissons, malgré cette question d'organisation, hein, qui pourrait peut-être en détonner plus un, donc la question d'organisation peut être aussi un moyen d'aller vers les connaissances qui sont, malheureusement, on l'a vu tout à l'heure, souvent délaissées dans les collections, dans les réserves. Donc vous avez par exemple ici, sur le site web de la bibliothèque de Paris 8, la façon dont les salles sont présentées, je dirais quelque chose de propre, de lisible, d'aéré, de clair, mais qui ne met certainement pas en évidence le potentiel du lieu. Les bibliothèques, donc les salles de lecture, parce que c'est quand même une bibliothèque qui se déploie sur 13 000 ou 15 000 mètres carrés, donc l'architecture, elle n'est pas anodine. Thierry Boulet parlait bien d'un objet de sens. Il a voulu introduire quelque chose là-dedans. Donc il y a eu des groupes de travail chez les bibliothécaires avant que la bibliothèque soit ouverte pour la disposition des salles, pour la climatisation, pour les proximités. Et en fait, on s'aperçoit que ça n'est pas proposé. C'est dommage. Alors qu'on aurait pu faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous avez ici la même bibliothèque, mais mise forme de réseau hypertech. C'est-à-dire qu'alors quand je dis que c'est pas un hypertech, c'est simplement l'essence de circulation qu'il peut y avoir d'une salle à une autre. Et en fait, on s'aperçoit, et enfin en interviewant, c'est ce qu'on a fait fréquemment, Sophie Chauvin et moi-même, en interviewant des bibliothécaires qui ont pu participer au groupe de travail avant que l'hypertech ouvre, et on s'aperçoit que ça n'est pas un hasard, indépendamment du fait que les salles s'appellent d'un nom de couleur, mais que certaines salles soient les unes à côté des autres. Je m'explique. C'est-à-dire que ça n'est pas un hasard que la salle rouge, avec la psychologie, la sociologie et les sciences de l'éducation, soit proche des sciences politiques, de l'histoire, de l'économie. Ce n'est pas un hasard si cette même salle est à côté de l'informatique et de la philosophie. Ce n'est pas un hasard si les salles communiquent. Donc, à la fois les flèches noires que vous voyez, c'est la possibilité d'y accéder physiquement à partir de la salle rouge. C'est-à-dire que je peux me rendre dans la salle bleue. À partir de la salle rouge, je peux me rendre dans la salle violette. Et puis, ce cheminement physique, donc, en fait, ça accompagne, excusez-moi, d'un cheminement intellectuel, mais aujourd'hui qui est, grosso modo, peu connu des usagers qui, grosso modo, vont dans la salle de lecture. Donc, il y a un potentiel par rapport à cette conceptualisation de la connaissance, de ce qu'on pourrait proposer en plus aux usagers. Et que tente de restituer le dispositif que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors là, je m'arrête. En soi, donc, cette vocation un peu peut-être utopiste, vous m'excuserez, mais c'est quand même plaisir de temps en temps d'essayer de dire ce que pourraient être les choses. Donc, évidemment, il y a la réalité. Bon, là, je suis là en train de vous parler de mes travaux de recherche à la bibliothèque, également enseignant. Et une partie de mon service concerne donc la formation des étudiants de premier cycle et sur la méthodologie documentaire. Vous savez que Paris, depuis 25 ans, fait beaucoup de choses sur, avec le Burpee, finalement, pour beaucoup travailler sur les questions de méthodologie documentaire. Hein, on voit donc aux travaux de Alain Coulon, par exemple. Et donc, je suis, depuis que j'enseigne ici depuis 8 ans, eh bien, je contribue à perpétuer la méthodologie de documentaire. Et je dirais qu'en accompagnant mes travaux sur la bibliothèque, eh bien, en fait, j'essaie de rapprocher les deux. Rapprocher ces idées, ces intuitions de recherche que je suis en train de vous expliquer maintenant, et puis la pédagogie, la réalité de ce pourquoi les étudiants sont en face de moi pendant 39 heures sur 13 semaines. Et donc, à l'occasion de ces séances de méthodologie, j'ai un petit peu reconfiguré la vocation du cours. Alors, j'ai reconfiguré parce qu'aussi j'y ai été aidé, puisque nous sommes aussi en mutation vers le LMD, les cours sont un peu transformés techniquement. Donc du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas revisiter la chose. Parce que dans ces comitologies, il y avait également une question de travail intellectuel, d'apprentissage. On s'est aperçu aussi que les composantes reprenaient aussi cette dimension de travail intellectuel. Donc du coup, il me restait, moi, à les faire travailler sur les bibliothèques, sur les ressources documentaires. Sachant qu'en plus, en fait, personnellement, mon cours est passé de 37 heures à 33 heures, donc j'ai perdu des heures de cours, et que dans ces 33 heures, il y a également deux sessions qui sont à la bibliothèque même, dans la fin de formation. Donc en fait, ça a restreint mon nombre d'heures, donc du coup, j'ai été aidé en disant, bah, c'est peut-être l'occasion aussi de repositionner ça. Et donc, j'ai tenté dans ce cours de savoir, en fait, comment est-ce que les étudiants visaient la bibliothèque, comment est-ce que ça représentait. Qu'est-ce que c'était pour eux cet espace? Alors j'ai été beaucoup aidé par Gérard Vergniaud, donc qui est psychologue et didacticien, donc qui est ici. Donc pendant un an et demi, il a assisté au cours. Et donc on a eu l'occasion de discuter de ses observations. Et on a mené un travail donc, sur cette question de comment les étudiants en fait, représentaient leur bibliothèque. Et donc j'ai demandé un petit travail aux étudiants, puisque j'ai mis ici en gras. Je leur ai demandé en fait de poser des questions sur la bibliothèque. Alors, ce n'est pas directif, vous avez à me rendre 5 questions chacun sur la bibliothèque. Quel que soit, vous interrogez sur pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de moquette, ou pourquoi est-ce qu'il y a autant de livres dans la bibliothèque, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de livres, je ne sais pas. Enfin, peu importe, j'étais parfaitement libre de me poser des questions. Alors, 5 questions maximum, j'en ai parfois 6, j'en ai parfois une seule. Souvent une seule. Et donc ça donnait ça, donc on a fait ça sur deux semestres. Donc vous avez sur la partie gauche, sur les 4 premiers carrés, vous avez les effectifs. Donc les 5 questions étaient posées au début du cours, ce que j'indique par début de C, et en fin de C, avec l'idée qu'en me disant, forcément, avec l'enseignement que je leur ai donné, à la fin du semestre... Oui. Donc on a eu beaucoup plus. Alors, caractéristique de ces deux groupes, c'est que donc il y a, comme en fait gentil, des étudiants qui sont en communication, et que donc les secrétaires du département de communication m'ont aidé en fait lors du premier semestre à ne retenir que les étudiants qui venaient d'arriver à la fac. Donc ils sortaient du baccalauréat, donc en fait ils découvraient l'univers de la bibliothèque et de l'université. Alors que lors du second semestre, j'ai en fait souvent des étudiants qui étaient déjà leur deuxième année d'université. Que dans le cas, si vous voulez, de ce que disait Alain Coulon, grosso modo, l'étudiant commence à s'affilier au bout d'un semestre, voire un an. Donc en fait, dans le cas du deuxième semestre, j'avais des étudiants qui avaient déjà un an et demi d'université derrière. Alors, grosso modo, c'est là où j'ai eu l'expertise et la compétence extrême de Gérard Vergniaud, qui m'a aidé à catégoriser les questions. Alors au démarrage, moi je l'avais fait, mais je me suis retrouvé avec 70 catégories, et j'avoue que j'avais du mal à me dépouiller dans la connaissance complète que j'avais produite. Donc en ce moment, grâce à Gérard Vergniaud, je vous remercie infiniment pour ça. Donc il m'a donné des catégories, donc il y en a une dizaine. Et vous avez donc pour chacune de ces catégories le nombre en fait de questions qui relèvent de ça. Alors c'est bien sûr, hein, c'est un peu arbitraire, mais. J'ai parfaitement confiance en la manière dont Gérard a pu distribuer ces différentes catégories. Donc, je peux vous donner, les questions sont accessibles, je peux vous les donner si vous le souhaitez. Et grosso modo, donc, vous voyez que pour les étudiants du premier semestre, donc, jeunes étudiants, c'est grosso modo combien d'ouvrages ils doivent prendre. Pourquoi ils ont droit à 3 et pas à 6, et pas comme les enseignants, et pour combien de semaines, et patati patata. Un peu comment marche la bibliothèque, on se demande aussi à quelle heure ça s'ouvre, à quelle heure ça se ferme, pourquoi c'est pour le lundi matin, pourquoi pendant les vacances c'est fermé, et puis pourquoi. Et puis donc, grosso modo, voilà, en fait c'est vraiment quelque chose de proximité. C'est tout ce qu'ils ont normalement sur le site web. C'est en fait des informations qu'ils pourraient trouver sur le site web, qu'ils pourraient avoir en demandant au bibliothécaire par exemple. Donc on a à peu près la même chose, donc c'est les mêmes catégories sur le second semestre, avec vous voyez, juste un repositionnement pour la question d'organisation générale. Donc grosso modo, ils ont pris un peu plus de distance avec les frais, ils savent qu'ils peuvent prendre 3 ouvrages pour 5 semaines, pendant les vacances, tout machin. Et par contre, ils disent, bah, tiens, c'est joli ici, c'est la belle peinture. Ah, le parquet est beau. Est-ce que c'est compliqué à nettoyer? Voilà. Alors ça, c'est la réalité donc, de ces primo-arrivants, de ces jeunes étudiants, et certains plus affiliés déjà. Et puis là, j'ai mis, donc ça c'est un petit questionnaire que j'ai envoyé au bibliothécaire cette fois-ci, et je lui ai demandé donc il y a quelques temps, voilà, moi j'ai identifié dans la bibliothèque ces évolutions-là. C'est-à-dire qu'avant que la bibliothèque soit ouverte à la nouvelle, hein, celle qui fait 13 000 mètres carrés, ensuite à un boulet, donc... c'est la colonne de droite, hein, depuis 1998, quand elle est la bibliothèque. Et puis, lorsqu'avant, le SCD était coincé, là où se trouve l'USR-AR maintenant, donc vraiment coincé sur deux petits étages, avec pas beaucoup de place pour les étudiants, pratiquement pas d'ouvrage en libre accès. Donc, en fait, j'ai listé ici ce que moi, j'ai pu observer d'évolution. Donc, vous avez sur ces différentes parties, donc la question de l'informatique, du propre bibliothèque, des services en ligne. Vous avez ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a eu depuis la bibliothèque. La bibliothèque a été ouverte. Donc, il n'y avait pas de poste informatique avant, il y en a maintenant. Il y avait quelques CD-ROM, il y en a beaucoup plus maintenant. Il y a beaucoup de noms avant et beaucoup de oui après. Enfin, pareil, les espaces audiovisuels, service public, thématique, plein de choses qu'il n'y avait pas avant et plein de choses nouvelles aujourd'hui. Et donc, je retourne un petit peu. C'est un peu plus. Alors que grosso modo, et si vous regardez les questions, les étudiants ils passent complètement à côté de toutes ces évolutions. En fait, pour eux, la bibliothèque semble un peu être un espace comme si c'était figé, mais figé dans leur représentation. Ils vont identifier comme étant un lieu où il y a des livres, dans des rayonnages, j'y vais, et puis à partir de là, la question du développement personnel, de l'utilisation maximum de tout ce qu'il y a ici, bon, c'est un peu. Et donc, d'où l'idée de dire, mais comment est-ce qu'on pourrait leur signaler que tout ça, ça pourrait leur apporter quelque chose? Comment leur dire, sans devoir tout leur apprendre, ça ne les intéresse pas nécessairement, on peut comprendre aussi la situation, mais comment ça peut les aider dans leur focal de disciplinaire, comment ça peut les aider, cette organisation, cet espace, hein, cet espace communautaire, social, culturel, quand on fait des meilleurs, comment ça peut les aider. Donc en fait, Sophie et moi, nous sommes concentrés sur des choses qui nous ont paru le plus intéressant, le plus structurel, et qui pourraient aider à ces usagers. Donc on a pris la focale de la classification, on a pris la focale des notices, des informations qui sont associées, en l'occurrence précisément ce qui relève bien sûr de la disponibilité des ouvrages, qui intéresse beaucoup les étudiants, de la notice, et de la répartition de l'indice que porte les ouvrages, enfin les inventaires associés, et les outils d'ouvrage. Et puis les menées de matière à mots, pourquoi? Parce que donc fréquemment, bien sûr, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est une signature sémantique extrêmement intéressante, cette menée de matière à mots, et qu'elle est tout à fait transversale, comme on le verra tout à l'heure. Donc grosso modo, on s'est arrêté à ces trois éléments, il y en a bien sûr beaucoup d'autres, hein, mais grosso modo, on a tenté de travailler avec des éléments de base, et chacune de ces choses fonctionne distinctement. La classification, les bibliothécaires l'utilisent communément, constamment, hein, ça fonctionne de leur niveau. Et le type de graphique, eh bien, c'est une notice que les utilisateurs les usagers peuvent consulter très facilement. Donc quand ils utilisent le catalogue en ligne, c'est un objet à part entière. Et puis l'autorité matière, c'est aussi le réseau rameau, ça convoque d'autres expertises, d'autres façons de faire. Donc à la fois, des choses qui semblent se découper assez autonomes. Donc j'illustre ici, donc sur le site de la bibliothèque, vous pouvez trouver l'extension de la classification. Donc pour toutes les classes, il y a ce modo les indices et puis les statistiques. C'est pas complètement à jour, mais c'est déjà un début. Hein. Vous avez pour Rameau le site de la BNS, donc Michel Mangam est là, donc avec les autorités, le réseau, comment ça fonctionne. Et vous avez donc, bien sûr, la notice biographique est accessible à partir du catalogue, donc qui donne toute l'information relative à la base de données. Et en fait, on a travaillé sur ce petit... Alors c'est vrai que ça paraît tout bête, trois espèces de enfants, de losanges avec des tirons dessus. Donc ça a demandé quand même 2 ans de travail pour aboutir à ça. C'est ça, en fait, c'est ça qui sert au dispositif que vous avez vu tout à l'heure. En fait, c'est comment... rendre visible en fait ces trois couches, ces trois plans en fait qui se répondent. Vous avez ici donc le générique hein, qui est la classification. En fait donc c'est le global qui permet souvent en fait d'appréhender le monde, l'université, la bibliothèque, les enseignants, les étudiants, Hein, donc la philosophie, la linguistique, les mathématiques, l'informatique, hein, les TIC. Et puis, vous avez ensuite le deuxième plan qui relève en fait des notices, que j'ai vu tout à l'heure. Donc chacun des petits carrés représente une notice. Et bien sûr, à un moment donné, on s'aperçoit, au travers de la classification, que chacune des notices, en fait, au travers des données d'exemplaires, est porteuse d'une marge de classification. Donc en fait, il y a une hiérarchie, en fait, une relation NR entre une classe et les notices qui sont distribuées. Et puis, les vedettes matières rameaux, qui, donc, on l'a vu tout à l'heure, sont à la fois autonomes, hein, elles tentent de refléter un univers sémantique intellectuel, et puis donc qui viennent décrire d'une certaine manière, hein, je vais mettre toutes les réserves sur la description, sur la question de la notice, mais c'est aussi un moyen transversal de se balader dans les ouvrages, et en fait de venir casser la question de la hiérarchie introduite par la classification. Donc les flèches qui viennent se rajouter sont les moyens dont ces matières rameaux viennent alimenter, viennent rendre circulaire la consultation des notices, et viennent également, en fait, dans une certaine manière, ressurgir sur la classification. Donc, le dispositif que je vous ai montré tout à l'heure, hein, n'avait que pour vocation, et en fait, l'instrument, hein, de ce système conceptuel. Alors, bien sûr, il est expérimenté, hein, on a distribué des questionnaires pour les usagers dans la bibliothèque, on a eu 82 questionnaires, les résultats sont disponibles directement sur le site, hein, du groupe de recherche. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais de la question de volume d'informations qui est présenté. Il faut savoir que sur les 82 questionnaires, il n'y a jamais eu la moindre remarque quant au fait que l'interface était très saturée. Bon, les gens n'ont pas toujours compris ce qu'il y avait dans tout ça, mais il n'y a aucune, donc les questions sont restituées à l'air. La partie libre, dans laquelle vous pouvez le télécharger. Il n'y a rien sur le fait que ça ne soit ou pas intuitif. Si vous nous animez, ce n'est pas très intuitif le système. Enfin, oui, mais il n'y a aucune remarque utilisateur qui dit je n'ai pas d'intuitif. Et il n'y a rien qui va dire c'est trop chargé. Par contre, le fait que ce soit éventuellement intéressant, que ce soit c'est marrant cette image là-haut, c'est attractif, ça c'est indiqué. Alors, il y a certainement des choses qui sont. Alors qu'en plus, bon, il y a des situations techniques un peu difficiles parfois dans la bibliothèque, puisque le réseau est parfois saturé. Bon, et pour l'instant, on n'a pas encore de retour sur l'exploration. Donc, il faut savoir que malheureusement, pour des raisons techniques expérimentales, on est passé de 4 bornes à une seule. Donc, ça limite de manière extrêmement conséquente l'expérimentation. Mais peut-être que dans d'autres endroits, nous aurons l'occasion d'expérimenter beaucoup mieux. Okay. Et enfin, pour la question de la localisation, bah, c'est à venir. Donc, ça sera forcément disponible. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je suis désolé d'avoir été un peu long. Si vous avez des questions, j'aurai le plaisir de vous répondre. Avant de laisser la place à la collègue de Madame Blanche. Oui.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Je veux revenir, si vous permettez, sur le lien de la
loi.
Alors, j'ai vu que l'interface de recherche était trop simple. Oui. Je me demande pourquoi vous n'avez pas développé. Enfin, une interface de recherche avancée, par exemple. Même j'ai vu au niveau des exemples que vous avez donnés. Des exemples trop simplifiés, par exemple, Digital Library ou bien Bibliothèque de Prix, etc. Parce que dans d'autres domaines, on a besoin de faire des recherches vraiment booléennes, c'est-à-dire avancées avec des opérateurs booléens, etc. C'est la question que je voulais vous poser.
La première raison, c'est que, si vous voulez, techniquement, ça ne posait aucune difficulté de mettre un système de recherche avancée qui aurait repris, en fait, par exemple, tous les champs minima. Ça ne pose aucune difficulté particulière. Donc, on aurait pu avoir un menu avec, je ne sais plus combien, 400, 500 champs. Donc, c'est un très dichotomique, ça sort un truc. Expérimentalement, on s'aperçoit, bon, je peux envoyer, en fait, aux commentaires de Salim Baral sur le portail d'Adès, par exemple. Sur ce modo, eux, ils ont mis des menus déroulants. Et ils disent, en fait, la première option qui est indiquée, c'est celle qui est la plus utilisée. Et souvent, les utilisateurs ne vont pas chercher les contenus. Il y a beaucoup de travaux expérimentaux, donc je vous renvoie aux travaux en sciences humaines de Dimé, de Simono par exemple, qui disent que grosso modo, et même chez les chercheurs, je vous renvoie dans l'ouvrage du Tech Numérique les commentaires d'Emmanuel Jeunesse-Robert, sur le fait que les gens n'utilisent pas beaucoup de questions composées. Alors bien sûr, ça fait une réaction de professionnel, des gens qui ont l'habitude d'aller chercher. Mais vous pouvez regarder la bibliographie, vous avez en fait des tas d'études, un même rouet de vie. Beaucoup de gens montrent que l'utilisation de l'évolution est contre-intuitive. Donc en fait, on n'a pas voulu aller au-delà. Et on s'est arrêté sur les trois choix auteur, comment dirais-je, titre et puis les temps de l'arano, parce que c'était déjà celle-là qui existait dans le cadre de GAC et Livre, hein, qui est le nom de l'audience de la Marais. Et dans ce modo, bah, ça finit comme ça. Mais donc, vous voyez, derrière le fait de ne pas avoir rajouté, tellement le fait que, pour ce mono, tout ce qui relève du booléen pour des géniteurs qui sont novices, qui ne sont pas spécialement intéressés par la question des combinaisons complexes ou des équations complexes, on ne comprend pas comment ça marche. Et je pourrais vous donner des statistiques sur le nombre d'expressions pour une solution de catalogue, combien il y a de mots. Par exemple, les outils sauvages qui est en ligne, ouais, c'est vous pouvez y aller. Donc, il y a tout un travail qui était fait d'un point de vue statistique. Dans combien de mots, enfin, sur l'ensemble des enquêtes qui ont été lancées, eh bien, combien de fois est-ce qu'il y a des séquences de 2 mots, 3 mots, 4 mots, 1 mot. Vous allez voir, c'est. C'est pour nous. Enfin, les efforts sont imposés peut-être pas. Alors, il est vrai que dans le questionnaire que dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est 82 usagers qui ont entendu le questionnaire. Donc, il y avait une partie qui était des documentalistes, donc en maîtrise de documentation, et c'est exactement la réponse. Oui, mais ça manque le champ un peu plus.
Excusez-moi,
hein, oui,
ça présente. On a vu aussi l'exemple, je pense, si je peux poser une question.
Oui,
on a vu l'exemple, par exemple, sur le moteur de recherche, oui. Sur Digital Library. Bon, c'est tout à fait normal, et c'est pas étonnant qu'ils nous vendent ces concepts. Je ne sais combien de notices du
peuple.
Mais ce n'est pas très le but de la recherche, je pense, à mon avis. D'accord, avoir un maximum d'informations, surtout sur Internet, c'est une chose très facile. C'est-à-dire, si on tape un mot-clé très simple, c'est tout à fait normal qu'on ait, je ne sais pas, 50 millions de notices bibliographiques. D'accord, mais le but, je pense, de la recherche, ce qu'on essaie d'apprendre à nos étudiants, c'est justement d'avoir, pas forcément un maximum, pas en quantité, mais en qualité, c'est-à-dire avoir un minimum. Enfin, un minimum, je ne sais pas, mais moins de références, moins de documents, mais pertinents. Mais avoir 100 000, 200 000 de références bibliographiques, je pense.
C'est exactement la raison pour je n'ai pas parlé d'Internet dans mon intervention, enfin, je l'ai juste illustré, mais c'est justement parce que la qualité, elle est dans la bibliothèque. Parce que je n'ai pas besoin de me soucier de la qualité, parce que dans la bibliothèque, elle est là. Voilà.
Elle est là.
Oui, après, bien sûr.
Elle est là, mais enfin, l'indexation.
C'est pas drôle, c'est moi. Là.
L'indexation des données matières. Comme vous pouvez parler de données matières. C'est quand même une fragilité. Je me demande combien de termes on peut rajouter dans une recherche de bouquin par données matières en bibliothèque sans arriver à un silence.
Enfin, moi, je vous invite à regarder les statistiques, vous allez voir que, grosso modo, après, les systèmes, vous voyez, on peut très bien s'imaginer, enfin, on peut rajouter à l'infini des possibilités. Donc, vous savez, dans le catalogue d'ADN, c'est de rebondir, on peut tout à fait dire, ben voilà, l'utilisateur a posé un mot qui n'était pas bon, mais l'orthographié, et bien on peut faire un meilleur lien. Ouais, parce que l'indexé n'est pas assez indexé, pas correctement indexé, pas indexé comme il en fait souhaiter pouvoir interroger, on peut aujourd'hui pallier à ça de manière extrêmement facile avec la question. Donc, on peut tout expérimenter aujourd'hui. Donc là, grosso modo, je veux dire, nous, on est parti sur l'idée que, actuellement, c'était comme ça. Qu'est-ce que l'on pouvait plaquer en respectant cette réalité? Demain, on peut proposer une multitude de choses. Alors, après, bien sûr, dans un dialogue constructif, hein, peut-être que ce sera l'occasion d'établir un bibliothécaire, un endroit, dans un dictation. Moi, je ne sais pas. Oui.
Est-ce que dans votre barre de recherche, on peut rentrer des termes qui appartiendraient à différents champs, par exemple, un auteur et un morceau de titre? Ou est-ce que c'est la chaîne de caractères qui est
plus grande? On pourrait vous parler là, ce n'est pas plus grave.
Parce qu'en fait, on parlait des usages de nos lecteurs. Ils ont assez l'habitude de rentrer des mots qui appartiennent à des champs disciplinaires différents, voire de mettre des plus ou des guillemets. Et sur certains... catalogue, ça ne passe pas du tout. Est-ce que ça a été pris en compte pour votre vision de catalogue?
Bien. Parce que là, en fait, de se dire, voilà, quelles sont les habitudes d'interrogation qu'ont les étudiants, je ne sais pas, moi, je demande à un étudiant sur n'importe lequel, on leur parle de comment est-ce qu'on fait un OU sur Google, ensuite, comment est-ce qu'on fait un OU sur Yahoo, comment on fait un OU sur Assis, comment est-ce qu'on fait un OU sur iTunes, comment est-ce qu'on fait un OU sur, sur Carrefour. Donc, évidemment, ils peuvent déjà en fait, savoir, déjà, ils comprennent comment marche le OU, ça soit objectif, ça soit objectif. Et donc, en fait, il faut déjà en fait, avoir ce référentiel, et en fait, c'est limité, c'est infini. Donc, pour l'instant, on ne sait pas vraiment intéressé à cette notion. Enfin, expérimentalement, ce n'est pas une piste.
Moi, je me demandais justement dans la liste des questions, personne ne vous a posé la question d'une formation aussi à l'utilisation.
Alors, je ne sais pas ce que vous en faites, puisque les étudiants étaient en cours, ils avaient eu accès en fait, aux formations d'usagers, donc il y avait deux séances qui étaient prévues, une qui présentait l'ensemble des outils de la bibliothèque, et une autre qui était intégrée, donc en fait, je pense qu'ils n'étaient pas. Oui.
J'ai une remarque à faire sur l'intervention tout à fait intéressante. De quoi parle-t-on quand on parle de bibliothèque? Et je crois qu'il y a une grande ambiguïté entre les usagers d'une part, les bibliothécaires d'autre part, je suis bibliothécaire. Est-ce qu'on parle d'un espace? Est-ce qu'on parle de collection? Est-ce qu'on parle de service? D'un service? Est-ce qu'on parle d'un outil d'acquisition des connaissances? Les usagers qui arrivent dans votre étude, les étudiants, vous ne les avez pas interrogés sur leur parcours préalable avec des services documentaires, des rencontres qu'ils auraient pu faire, que ce soit les bibliothèques publiques dans la ville où ils habitent, ou les CBI des collèges lycées, voire les BCD des écoles élémentaires. Quel rapport vous avez déjà avec le lieu de bibliothèque? Et dans la liste des questions qui ont été posées, ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est le lieu ou le service, et pas tellement les collections qui sont focalisées par les étudiants, alors que la question des bibliothécaires, c'est bien la question de la collection, et comment on la rend accessible, comment on la classe. Mais en fait, est-ce que c'est bien la demande de l'usager ? L'usager, est-ce qu'il est demandeur de formation? Oui et non, c'est-à-dire que non, sûrement pas, mais oui, il faut bien passer par là pour comprendre quelque chose. Donc c'est cette espèce de cet objet conceptuel là, qui est sur plusieurs registres. Et moi, ce qui m'interpelle aussi, ce qui m'interroge aussi en tant que bibliothécaire, c'est le fait qu'on articule finalement mal la question de l'espace et de la collection. Et je suis frappée dans votre interface, c'est qu'il y a finalement pas tellement... Vous tentez à plusieurs reprises, on sent bien que c'est là, la question de l'espace, d'articuler cette question-là, mais que ça reste très très compliqué. Et peut-être pour des moyens techniques, on imagine une espèce de parcours, on pourrait imaginer, je ne sais pas si c'est difficile à faire, sans doute, techniquement, mais entre le mot bibliothèque, un espèce de parcours visualisé dans la bibliothèque pour aller effectivement localiser le livre qui parle de ça. J'ai aussi dans la tête, je dis des choses un peu très sombrouilleuses, la bibliothèque imaginaire de Borges, qui est quand même récurrente derrière cette affaire-là. Et puis l'acquisition de la connaissance, je citerai, sans entrer dans les détails, les BU anglaises qui commencent à devenir en fait... dans certaines universités, des lieux ouverts 7 jours sur 7, toute la nuit, pas les mêmes services sans doute à 2 heures de l'après-midi qu'à 2 heures du matin, mais elles sont ouvertes totalement, et le parcours de l'étudiant devient en fait complètement centré autour de la bibliothèque, les cours des professeurs étant pas forcément à suivre, mais l'enseignement change beaucoup, la bibliothèque devient non seulement et ce lieu d'acquisition de connaissances, mais aussi un lieu de travail en groupe et d'élaboration de la connaissance ou de production de connaissances. Donc voilà, tout ça est un peu en vrac et un peu en fouillis, mais moi c'est des pistes qui m'intéressent professionnellement et personnellement.
Également, mais peut-être de l'autre côté, mais justement je crois qu'il y a essayé de se retrouver autour de cet objet qui est complet. Vous disiez, enfin, moi j'avais vu une fois mes étudiants, je crois que j'ai arrêté à ce moment-là, qui me disaient, mais lorsque l'abordais, elle était quelque part à 8, parce que pourtant, c'était magnifique bibliothèque, et qui disait, mais au début, pour moi, c'était la jungle. Donc alors, c'était pas le fait que ce soit
c'était mal rangé, mais ça l'impressionnait, mais ça l'impressionnait. Évidemment, il y a
pour chacun de ces usagers, parce que le problème, il est bien là. Hein. Et on se rend bien compte qu'ils sont usagers. Autant on peut parler des bibliothécaires comme une communauté, avec des règles, un système culturel, social, vous avez, vous représentez bien, enfin, on parle de communauté de trafic ou d'intérêt, donc vous êtes bien une communauté, mais les usagers, ce n'est pas une communauté. Chaque usager qui rentre dans la bibliothèque, il est unique. Il a chacun une démarche, un background, un profil, une demande, une connaissance. Donc chacun est unique et il ne se retrouve pas dans cette question de l'ordre, dans cet espace, dans ce qu'il est donné. Donc évidemment, l'idée, au-delà d'essayer de lui proposer quelque chose, c'est aussi de déconstruire ce qu'il a intégré. Enfin, souvent, ils ne comprennent pas la bibliothèque parce que leur référent, je dirais, de CDI, de bibliothèque municipale, eh bien, vient percuter aussi l'implantation de sa bibliothèque. Et ils ne veulent pas en changer aussi, mais parce que c'est inquiétant. Alors, ils sont déjà en train d'apprendre constamment de nouvelles choses dans leur formation, puis ce qu'ils pensaient avoir acquis, c'est vite montré qu'ils se déshabillent et qu'ils recommencent. Donc il y a aussi cette réticence à le faire. Donc l'idée de celle-là, c'était en fait de leur suggérer que peut-être, ça serait peut-être intéressant pour eux, l'espace d'un instant, d'abandonner une vision et se laisser guider par une autre logique. Hein, c'était essayer de ne pas venir se confronter en opposition, en conflit avec ça. Donc ça, c'est peut-être pour répondre à votre première remarque, je dirais. La seconde, quant à la tentative de rendre l'espace physique plus présent par le virtuel. Bon, bien sûr qu'il y a des travaux, hein. Je pensais aux travaux de Duchner avec Pierre Thibault, je pense aux travaux de Fekete et de Collinet, donc, qui ont proposé des transpositions virtuelles de la bibliothèque. Il y a des choses qui sont faites. Alors, toujours pareil, c'est que ces environnements techniques, si vous voulez, elles ont un coût d'apprentissage, elles ont un coût de compréhension. Et en fait, on est déjà dans un système, en fait, que souvent les gens ne comprennent pas, les usagers ne comprennent pas, et on vient, en fait, rajouter une complexité sous prétexte que, parce que c'est des technologies informatiques et qu'ils ont l'habitude de faire du MSN, ça va aller. Alors, bien sûr, je ne voudrais pas des fois agir, mais je tente aujourd'hui, en fait, d'amener quelque chose comme celle-là. C'est encore un secret de réflexion. Je dirais que, grosso modo, ça n'est pas éloigné. Alors, mais pas tellement sur le fait technique, c'est pas l'idée de dire on va faire comme les autres pour proposer des technologies. Mais je dirais que dans un cheminement toujours qui relève des sciences de l'information et de la communication, c'est que dans la relation étroite qui s'opère entre l'environnement, l'espace physique, l'organisation, les collections et l'individu, une relation qui est très personnelle, très unique, eh bien l'idée c'est de dire, ben voilà, quand il parcourt à la bibliothèque, c'est bien un rapport individuel physique, il y a une relation physique entre lui et l'espace. Et que peut-être on peut travailler cet aspect de la réinjection, si je peux me permettre comme ça, de l'individu dans son parcours de la bibliothèque. Il dit, voilà, finalement, c'est bien ta recherche, c'est bien ta demande, c'est bien ton cheminement. Et donc, l'évolution, moi, que je souhaite apporter, bien sûr, c'est ce rapport, en fait, de dire à l'usager, mais il est concerné lui-même par ce qu'il fait. Donc, je dirais peut-être que les prochaines versions du plus, dans un an, vous aurez peut-être un système qui sera plus technologique. Mais sans rajouter, on va essayer de limiter la dimension technologique dans les apports. Voilà. Oui, madame.
Je voulais
poser la
question des usages des enseignants-chercheurs, parce que là, vous avez surtout parlé de vos étudiants, de ceux qui fréquentent la bibliothèque, qui viennent parfois pour la première fois, mais qu'en est-il des enseignants et des justement enseignants-chercheurs, quels sont leurs usages et quelles comparaisons vous pouvez faire avec ceux des étudiants?
Déjà, en fait, le métier en fait, nous sépare. Je ne peux vraiment pas répondre à cette question parce que je ne suis pas du tout de la connaissance qu'elle était clairement de ce que vous avez identifié, hein. Mais ne serait-ce que le fait qu'on ait des cartes pour savoir. Combien d'enseignants-chercheurs fréquentent la bibliothèque, qu'est-ce qu'ils demandent, etc. Moi, je n'ai pas du tout, j'ai pas accès à ces informations. Et les seules connaissances que je peux avoir, c'est les connaissances de proximité, mes collègues, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Ce n'est pas du tout assez, ce n'est pas significatif pour répondre à ce genre de questions. Donc, vraiment, je saurais vous dire. Donc, pour moi, si vous voulez, l'usager, c'est par exemple quelqu'un qui tente de s'approprier cette idée de la bibliothèque, qu'il soit enseignant-chercheur, qu'il soit étudiant ou qu'il soit autre chose, hein, puisque la bibliothèque de Paris, bien sûr, est ouverte aux gens de la commune et de la région du département de Saint-Denis. Donc, pour ça, je mets une information constructive à vous donner. On pourrait plutôt se tourner vers les responsables du service à l'usager d'ici. Ça pourrait être davantage en fait.
Oui. Okay. Non, est-ce que vous avez avancé que les étudiants
généralement, on pense que la bibliothèque est un espace figé. C'est une remarque très importante, je pense, et dangereuse en même temps. Mais ne pensez-vous pas que cette idée qu'ils ont de la bibliothèque est liée à l'accès facile par Internet au texte, aux documents textuels et non pas bibliographiques. Textuels, en texte intégral, parce que les sources sur Internet permettent à l'étudiant, à l'enseignant, etc., d'avoir des documents en full texte. Donc peut-être que l'étudiant n'est pas intéressé d'avoir des références juste bibliographiques, alors qu'il doit se déplacer encore une fois à la bibliothèque. D'ailleurs, je vous dis honnêtement, en suivant ma thématique, je m'attendais à ce que par exemple, le fond de la bibliothèque numérisée de Paris. Mais j'étais, ce que vous nous avez présenté, c'était le catalogue de la bibliothèque qui était sur Internet, c'est ce que j'ai compris.
Enfin, je sais que je vais répondre à un côté, vous m'excuserez. Mais en fait, véritablement, vous me suivez un rapport, enfin, une copie pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'accès. L'accès, je dirais, c'est bon, c'est très haut, je ne sais pas tout à l'heure, de débat des barbouilles, l'accessibilité. Quand vous venez un peu de la Borie, il y a ici, ouais, je me suis toujours battu pour que les gens aient du temps pour comprendre ce qui se passe autour d'eux. Mais voilà, ben, moi, je suis là dans une situation qui est, allez, utopique. Je me dis, ben, tout le monde a envie de comprendre ce qui se passe. Eh bien, donnons-leur ce moyen-là. Donc, en fait, j'ai une haute estime de l'usager, j'ai une haute estime de mes étudiants et des étudiants en général, qui disent voilà, en fait, ils ont envie de comprendre, ils ont envie de savoir, ils ont envie d'apprendre. Et qu'ils n'ont pas envie de faire du copier-coller, ils n'ont pas envie de dire de trouver le bon texte. Hein, par exemple.
Je crois pas
que. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que.
Non, je crois pas que. Je parle des bases de données spécialisées, je ne veux pas citer de nom, parce que Francis. Bon, moi j'ai travaillé sur ça pendant 9 années dans un centre de recherche, donc je ne vais pas citer le nom, mais croyez-moi, après on a fermé les boutiques parce que les étudiants, les chercheurs, enseignants dans différents domaines ne sollicitaient plus les sources bibliographiques. Ils voulaient du texte intégral. C'est ça le.
C'est différent de ces études de l'usage, c'est-à-dire que le problème il est, bien sûr, vous pouvez avoir accès à ce qu'on attend par ce système-là, au document le plus pertinent. Mais quel est le rapport entre. Pour vous donner un exemple, une fois, donc, lorsque je donne mes cours en recherche documentaire, évidemment, aujourd'hui, je dis aux étudiants, ben, vous pouvez aussi accéder au magasin. Et puis, un jour, donc, j'ai un étudiant qui est en premier cycle, en premier semestre, il me dit, monsieur, j'ai pris une thèse. 19 ans. Ah, oui, ben, c'est fabuleux. Mais il a dit, il compris. Il a une thèse. Il y a eu à la fois ce côté, ben, je vais chercher une thèse, je suis avec mon universitaire, j'ai envoyé une fiche, je vais ma thèse, et la thèse répondait parfaitement à ça. Mais il ne faut pas la comprendre. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce rapport en fait, à l'accès au texte intégral vient aussi, et l'accès facile au texte intégral vient en fait, enfin, rentre en conflit immédiatement avec le profil cognitif de la personne. Je dirais que, bon, évidemment, c'est bien que l'ouvrage soit numérisé et facile, mais. Que faire ensuite pour qu'aussi qu'il apprenne que ben, pour lire ça, ben, il faut peut-être qu'il dise ben, peut-être ça, puis ça aussi. Ça. Enfin, de forme d'initiation, on a un rapport à l'initiation. Si vous voulez, ce que vous avez présenté tout à l'heure NeuroWeb, j'ai participé au développement de NeuroWeb. C'est un thème qui est fabuleux. C'est-à-dire que vous avez des textes, ils sont indexés par des systèmes linguistiques de type nominé, si vous connaissez, donc ils vous sortent des expressions sémantiquement pertinentes. Et donc vous lancez une requête, et en fait dans la liste, il vous donne le document le plus pertinent. Mais je veux dire, sémantiquement parlant, on n'est pas dans des statistiques, on est dans du sémantique, avec des dictionnaires derrière. Et bien oui, ben voilà, un étudiant de premier cycle, il va tomber sur le premier document, il interroge par exemple la biologie moléculaire. Il a le dernier article, le deadline, machin, et alors ah, il a eu le meilleur document. Mais est-ce que lui, il a changé? Est-ce que lui, il s'est développé? Est-ce que lui, il a grandi? Est-ce qu'il a compris? Alors c'est sûr, tu peux dire, j'ai trouvé le meilleur. Tu peux avoir la meilleure voiture et tu ne sais pas savoir la conduire. Donc c'est plutôt, je veux dire, dans ce rapport, oui, je l'ai dit, c'est peut-être utopique, j'en suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Donc de libre accès, mais de développement, la vie va se développer, va grandir, va comprendre.